Bonjour à chacun. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous rassembles ce matin, non seulement pour partager, venir à ta table, pour chanter tes louanges, pour prier, mais aussi pour méditer ta parole. Et Seigneur, ouvre nos cœurs et aide-nous ce matin à saisir ce que tu veux nous donner pour que nous puissions en faire quelque chose qui construise aussi ton Église, qui non seulement nous fasse du bien, mais aussi nous interpelle. Seigneur, conduis-nous dans cette perspective, en ton nom. Amen. Nous sommes dans la deuxième aux Corinthiens, nous poursuivons notre parcours au chapitre 8 de la deuxième aux Corinthiens. De la première aux Corinthiens, voilà, merci de me rappeler, c'est parce que j'ai tapé 2 au lieu de 1, mais je sais bien que c'est la première. J'appelle ce passage, ce message, une question dépassée. Les viandes sacrifiées aux idoles. Oui, bon, pour nous, c'est peut-être pas, sans doute pas, une question quotidienne, mais la réponse est subtile. La réponse de l'apôtre est bien plus subtile que ce qu'on imagine. L'été dernier, je me trouvais au centre-ville, j'y suis rarement, en allant reprendre ma voiture au boulevard Pacheco, il y a 5 minutes d'ici, je remontais vers la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Et j'en ai profité pour y entrer brièvement. Pour faire quelques photos de sa belle architecture, nettoyée, rénovée. Je me rappelle, à toutes fins utiles, qu'à la fin du XVIe siècle, jusqu'au début du XVIIe siècle, la cathédrale a été utilisée par les autorités protestantes pendant la période hollandaise. Les catholiques ont vite repris leurs droits. Cela étant, si l'un d'entre vous m'avait vu entrer dans la cathédrale, il aurait pu s'étonner. Toi, ancien de l'Église, que vas-tu faire dans un temple dédié à Marie, où l'on trouve tant de statues, des saints avec des cierges, qui, comme dit le psalmiste au psaume 115, les versets 5 et 6, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, et elles ont un nez et ne sentent pas. On pourrait imaginer que j'aille y passer un temps de recueillement. Nous pouvons toujours imaginer un tas de choses. Dois-je pour cela m'interdire d'aller admirer l'architecture ? Je me sens libre. Et je sais que je ne rends pas un culte qui offense Dieu. Les Corinthiens avaient leurs habitudes, comme on dit dans leur ville, où les viandes sacrifiées aux idoles étaient mises en vente aux abords des temples. Les prix étaient intéressants. Alors pourquoi s'en priver ? On pourrait déjà après les promotions à cette époque. Mais une fois convertis, certains se posent quand même des questions. Serait-ce une manière indirecte d'être impliqué dans le culte des idoles ? Vaut-il mieux s'en abstenir, se tenir à distance afin de ne pas avoir de contact avec des pratiques idolâtres ? Cela me fait penser aux controverses il y a bien des années déjà, autour de la saga Harry Potter, où s'affrontent le bien et le mal, où la magie et les esprits maléfiques sont légion. Certains chrétiens ont dit « Ouf, je ne veux pas toucher à ça, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas que mes enfants voient ça ». Je pense aussi à un film comme The Shining, terrifiant, à l'atmosphère si étrange, qui aussi évoque clairement un surnaturel maléfique. Je sens déjà que des opinions tranchées surgissent parmi vous, peut-être. Il est vrai que certains peuvent s'en trouver troublés, voire même faire des cauchemars. Ce n'est pas mon cas. Mais peut-être devrais-je revoir ma position. Je ne sais pas si je dois prendre ce temps pour regarder ces choses. Peut-être devrais-je m'en abstenir. Je ne suis en tout cas jamais perturbé, parce que je sais que Dieu me garde. Mais peut-être devrais-je aussi me garder plus. Et c'est une question que nous pouvons nous poser chacun. C'est très actuel, très concret, ça dépasse les viandes sacrifiées aux idoles qui ne sont pas le quotidien de nos supermarchés, ni des abords des églises catholiques ou autres. Mais il est vrai que Satan est appelé le prince de la puissance de l'air et qu'il n'est pas utile pour le croyant de chercher sa compagnie. Je dirais qu'il y a bien plus de domaines où l'influence de Satan se manifeste dans ce monde, ne serait-ce que dans la télévision que par le passé une chrétienne hollandaise appelait « The cake cast van de duivel », l'armoire-fenêtre du diable. Le cinéma, les smartphones et l'accès facile à la pornographie qui touche ados et adultes, même les engagés dans le ministère, comme dit le pasteur Liebreck, il en a fait un séminaire il n'y a pas si longtemps. J'élargis la réflexion parce qu'il y a questionnement précis des Corinthiens, mais sur une question qui aujourd'hui nous paraît vraiment dépassée. Elle ne l'est pas tout à fait, et je fais un petit saut vers le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, parce que l'apôtre fait un parallèle entre la participation à la Sainte Cène et la participation à l'autel des idoles, avec les viandes sacrifiées aux idoles. Mais il ne revient pas sur ce qu'il dit au chapitre 8, il en fait simplement une allusion. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. L'apôtre Paul répond, parce que ceux qui sont devant le temple, dans le temple et qui mangent en ayant participé de tout cœur au culte des idoles, évidemment participent au culte des idoles. Et ce n'est pas ce que dit Paul ici au chapitre 8. L'apôtre Paul répond au chapitre 8, 9 et 10 à des questions précises. Je ne vais pas entamer cette réflexion parce que d'autres vont le faire après moi. C'est un peu la version primitive, ici, dans le chapitre 8, d'un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac. Ici, c'est un apôtre vous répond. Et au chapitre 8, la question est relative à ces viandes sacrifiées aux idoles. L'apôtre commence par évoquer la connaissance qui est celle de chaque croyant. S'il croit bon rappeler cela au début de sa réponse, serait-ce pour nous faire réfléchir à notre attitude face à cette connaissance qui, intimement, nous montre une voie à suivre, mais que pour différentes raisons, nous serions amenés à contourner l'obstacle en trouvant divers arguments pour ne pas appliquer la sagesse qui vient de Dieu. C'est un peu « oui, je comprends, mais… » Oui, Dieu me fait comprendre certaines choses, mais quand même, je vais peut-être tenter le coup, je vais quand même passer à côté en faisant un petit détour. Il y a ceux qui savent aussi toujours mieux que les autres, et c'est ce que dit Paul. Cela montre qu'ils ne savent rien, dit-il. C'est comme dans la chanson de l'acteur français Jean Gabin, aujourd'hui décédé, hein, depuis des années. « Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. » Mais on y trouve une conclusion intéressante sur le registre de l'amour. « Je sais que le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. » La réponse de l'apôtre n'est évidemment pas de nature affective, mais elle se réfère à l'amour fraternel, à la prévenance réciproque, et donc à la dimension communautaire de cette question. Alors lisons au chapitre 8, à partir du premier verset. « En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, certains commentateurs disent que c'était le restaurant des temples. On mangeait même aux abords des temples. Et c'est ce que Paul évoque ici. Lui qui est faible ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte. Ce frère pour lequel Christ est mort, en péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Et c'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. L'énoncé des principes. Tout d'abord, la relation entre l'amour et la connaissance. Oui, moi je sais. Je sais que les idoles n'ont aucune existence réelle. Elles ne peuvent rien. Elles ne peuvent surtout rien par le culte qu'on leur rend, parce que seul Dieu est Dieu. Amour et connaissance. Nous avons tous la connaissance. Et c'est sans doute là, peut-être, une importance capitale, c'est de rester proche de la parole de Dieu, de s'en imprégner et de recevoir par le Saint-Esprit l'éclairage que Dieu donne. Cela ne veut pas dire que nous allons faire l'impasse sur des études de théologie ou sur l'étude de certains passages de la Bible de manière plus approfondie. Non, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin d'étudier. Mais lorsque nous connaissons certaines choses, ce n'est pas l'occasion pour dire « Oh ben lui, il en est encore loin, le pauvre, il n'a pas compris. » Et l'apôtre Paul dit « N'agissez pas comme ça, ne voyez pas les choses comme cela. » La connaissance rend orgueilleux, écrit-il, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faut le connaître. Nous avons besoin de bien plus qu'une vie pour tout connaître de Dieu et pour sonder sa parole. C'est pourquoi chaque fois que nous plongeons nos yeux dans la parole et que nous réfléchissons sur ce que Dieu nous dit, c'est un monde presque infini. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Cette question importante qui ne semble en rien nous concerner nous parle aussi de l'influence que peut exercer une communauté chrétienne sur le monde qui l'entoure. Nous ne sommes peut-être pas connus ici dans la ville parce que nous venons de différents endroits et l'Église n'a pas le rayonnement que pouvait avoir une Église dans une ancienne ville comme Corinthe. Mais sans doute trouvons-nous aussi cet aspect plutôt limité dans la société d'aujourd'hui, où malgré toutes les formes de communication, l'isolement est grand, même pour nous chrétiens dans notre témoignage. Les circonstances de l'époque priment dans cette question. La partie de la viande sacrifiée dans les temples des idoles et mise en vente peut-elle être consommée par les chrétiens ? Et dans ces premiers versets, jusqu'au verset 3, Paul constate que deux principes sont à l'œuvre et souvent s'opposent. Déjà, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'en Israël, on prélevait une partie des victimes qui servaient de nourriture aux sacrificateurs, tandis que l'autre, offerte à Dieu, était consumée par le feu. À Corinthe, cette coutume se retrouvait plus accentuée encore dans les cultes païens. Et selon le rite grec, la portion réservée aux divinités était souvent offerte aux prêtres et considérée comme sacrée. Ce qui n'était pas utilisé dans le sacrifice était vendu et chacun pouvait l'acheter et le consommer. Morceau vendu à bas prix, et comme la nature humaine est la même partout, les offres commerciales avaient du succès. Les acheteurs se pressaient. La question fondamentale était donc de savoir si les chrétiens pouvaient en manger et participer de cette façon, d'une certaine manière, à l'idolâtrie. Alors nous comprenons que ceux qui écrivent à Paul témoignent d'une conscience sensible. C'est bien qu'ils se posent la question. Et ils ne savaient pas comment agir. Et venant du paganisme, on comprend que c'était un peu délicat. Et ils souhaitaient une réponse claire. Il y avait de leur part la crainte de rendre un mauvais témoignage dans la ville païenne, mais il y a plus, poser cette question à l'apôtre montre qu'il y avait entre eux une divergence d'opinion. Nous en trouverions sans doute facilement parmi nous sur d'autres sujets. Les uns n'y voyaient rien d'important et n'y trouvaient aucune compromission, mais d'autres, dans le doute, souhaitaient y voir clair. Et Paul surprend par le début de sa réponse, quand il dit « nous avons tous la connaissance ». On a l'impression qu'il dit « mais vous devriez le savoir, Dieu vous éclaire ». Cela s'applique à nous tous, chrétiens, qui croyons au Seigneur et sommes membres de son corps. Ce n'est pas que nous connaissions toutes choses, mais plutôt que notre appartenance à Christ illumine pour nous tous les problèmes. Progressivement, avec doigté, avec délicatesse, si nous recherchons la face du Seigneur dans sa parole. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Si nous restons à l'écoute de sa parole et à l'écoute du Saint-Esprit, nous marchons dans sa lumière et il nous accorde la grâce d'une connaissance toujours accessible et dont le Seigneur est le centre. Mais l'apôtre tempère cela en rendant compte de l'abus qu'on peut faire d'une telle grâce. En éveillant les Corinthiens à cette suffisance qui pourrait en résulter. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Certes, nous avons la connaissance, mais celui qui pense avoir déjà tout compris et sondé toutes choses montre qu'il n'en possède pas le premier élément, en n'étant pas conscient de tout ce qu'il a encore besoin d'apprendre. Ce n'est pas parce que tel frère ou telle sœur est plus faible ou plus fragile et que nous avons progressé sur ce sujet ou sur d'autres sujets que nous devons agir avec mépris et nous comporter en humiliant ou en blessant l'autre. Nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui progressivement va nous toucher bien au-delà de la question des viandes sacrifiées aux idoles. Paul marque une nouvelle opposition, et c'est pourquoi je parlais de subtilité. La connaissance enfle, mais la charité, par contre, édifie. La connaissance en elle-même remplit l'homme d'orgueil intellectuel. Elle a tendance à l'exalter à ses propres yeux et le prive, peut-être de cette manière, du vrai discernement. Ce qui enfle est menacé d'éclatement et d'effondrement comme un ballon peut péter, n'est-ce pas ? Alors que la charité construit de manière durable. Paul veut montrer que, comme toute autre question d'ailleurs, la solution ne se trouve pas sur le plan de la connaissance seule. Et Paul, qui poursuit son argumentation, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans ce monde. Les sacrifices sont absurdes en eux-mêmes, puisqu'évidemment les idoles sont sans valeur. Tous les prétendus dieux sont de faux dieux, et par conséquent, les sacrifices offerts à des divinités inexistantes n'ont aucun sens et nous pouvons en manger librement. Un seul est Seigneur et c'est lui qui nous libère de toute superstition. » Peut-être que ça nous fait toucher peut-être encore un autre domaine. Pour ce qui est des viandes sacrifiées, manger des viandes sacrifiées aux idoles, eh bien, nous pouvons en manger, mais quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées. Ils sont dans un autre état. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore ces idoles, mangent des viandes comme leur étant sacrifiées, je le répète. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Le danger de cette attitude pour le frère faible, au verset 7, c'est une question que nous devons prendre en compte lorsque nous faisons des reproches ou que nous avons peut-être des attitudes en disant « enfin, tu sais, ça n'a pas grande importance ». Mais pour l'autre, qui n'a peut-être pas perçu de la même manière, va s'en trouver blessé. Et l'apôtre Paul, concernant évidemment le temple des idoles et les sacrifices, il dit que leur conscience en est souillée. Et puis au verset 8, il dit « Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous n'en en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Je pense à certaines pratiques d'aujourd'hui, où certains ne mangent pas de ceci ou ne mangent pas de cela. Et non, parce que ce n'est pas bien. Des chrétiens agissent comme cela aussi. L'apôtre dit ce que nous mangeons, ça n'a pas nécessairement grande importance. mais veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Donc un aliment ne change pas notre relation avec Dieu, c'est clair. Il ne faut pas scandaliser le frère par sa liberté, par notre liberté, et il faut faire attention aux actes irréfléchis. Et nous avons une responsabilité face aux frères et sœurs. Et il y a une résolution, c'est restreindre volontairement notre liberté. La charité veille, elle pense à cet homme qui regarde aux chrétiens. Il ne sait sans doute pas que les idoles ne représentent rien. Et dans la ville de Corinthe, il se croit obligé de leur offrir des sacrifices. Et il dit, regardez ces chrétiens, regardez ce qu'ils font. Il participe aussi, d'une certaine manière, aux idoles. Et pour les croyants qui achètent de la viande consacrée, deviennent pour lui une pierre aussi d'achoppement. Ils lui paraissent reconnaître la valeur de l'offrande et la réalité des dieux auxquels elle est présentée. On peut tirer des conclusions peut-être pour d'autres domaines, dans d'autres circonstances. Dans vos actions, ne soyez pas inspirés que par votre connaissance. L'amour vient corriger ce que celle-ci a d'incomplet et rétablit un équilibre. Alors dans l'Église aussi, l'homme que nous serions tentés de regarder avec quelque condescendance parce qu'il n'a pas atteint notre degré de connaissance, Paul l'appelle le frère pour lequel Christ est mort. Mettre devant lui une pierre d'achoppement, c'est pécher contre le Christ lui-même, dira Paul. Est-ce réellement si grave ? Serions-nous tentés de dire en relativisant, on peut quand même expliquer les choses ? Je crois que oui, mais ce n'est pas toujours possible. Le plus grand enseignement à retenir est que l'amour doit toujours tenir une grande place dans notre manière de juger et d'agir. La grande victoire de la charité, c'est l'abandon volontaire de nos droits. Et c'est une chose difficile à réaliser, certainement dans une société qui insiste tant sur l'individu, son épanouissement individuel et ses droits. On ne peut négliger cette influence aussi dans l'Église aujourd'hui. C'est donc bien un aspect communautaire de l'édification réciproque qui tente à ne pas choquer, mais à construire et à progresser ensemble. Il y a une immense compensation dans le fait que nous aidons un de nos semblables au lieu d'être pour lui une occasion de chute. Il est donc question ici de relations fraternelles. Il est donc possible d'édifier dans l'amour et non dans une connaissance supérieure qui bouscule l'autre. On peut d'ailleurs faire de ce principe de prévenance une application abusive. Si un aliment scandalise mon frère, encore aujourd'hui, à perpétuité, je ne mangerai plus de viande, pour ceux qui ne mangent que des légumes. Une telle abstention doit nous être dictée par le souci de ne pas blesser la conscience de notre frère ou de notre sœur et par rien d'autre. Mais nous y recourons que si notre exemple a réellement été une occasion de chute pour quelqu'un. On peut appliquer ce principe, en fait, à bien d'autres domaines encore. Il faut être mesuré dans notre réaction et notre attitude. Et à cet égard, nous nous souvenons de ce que nous avons vu au chapitre 3 de la même épître au verset 9. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Verset 10, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Et au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors là, ça se corse un peu au niveau du temple. Paul parle souvent de l'Église, Ecclésia, dans 114 occasions, dans le Nouveau Testament, plus de 62 fois, c'est Paul qui emploie ce terme. Et c'est dire l'importance de la communauté pour l'apôtre des païens. Et cependant, aussi d'autres termes pour décrire l'Église. Le premier est celui de temple, que l'on trouve surtout dans les deux épîtres aux Corinthiens et dans celle aux Éphésiens. En 1 Corinthiens, l'image figure dans le contexte d'une vie communautaire où des clans, et on a étudié cela, où factions s'agglutinent autour de certains responsables chrétiens comme Apollos, Paul, et notamment, et qui risquent de créer des divisions. Et c'est ce que nous avons donc vu. Il serait possible de répliquer qu'ailleurs, cette image du temple s'applique plutôt à l'individu. Quand Paul, en 1 Corinthiens 6, 19, dit au sujet de ceux qui considèrent le corps de si peu d'importance qu'ils pourraient, en bon chrétien, s'unir à des prostituées. Ne savez-vous pas ceci ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Et il y a là donc un élément qu'il ne faut pas négliger. Mais dans bien des passages, Paul emploie le mot « temple » pour l'Église. Il y a plus à dire sur cet aspect, mais le temps nous manque. Mais cette identification avec le temple a des implications majeures pour la vie chrétienne. L'idée que c'est d'abord l'Église en tant que communauté qui est le lieu de rencontre avec le Dieu vivant suggère que c'est en tout premier lieu, dans le cadre du culte chrétien, dans la vie partagée avec nos frères et sœurs, que nous rencontrons et cheminons avec le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Alliance. Paul parle de l'Église comme corps du Christ dans trois écrits, surtout l'Épître aux Romains, les Corinthiens et les Éphésiens. Si dans ce passage, bien connu d'un Corinthiens 12, l'image décrit avant tout l'unité et la complémentarité des membres de la communauté locale, dans l'Épître aux Romains, elle définit en grande partie le comportement éthique des croyants. Et là, on rejoint notre chapitre 8. Il est intéressant de le noter d'ailleurs, dès que Paul passe de la partie doctrinale de sa lettre aux implications pratiques, il soulève la question de la vie en Église. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a répartie. Vous voyez le parallèle avec le chapitre 8. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous pourrions être tentés de prendre le verset 3 comme une description générale de l'humilité. Et dans un deuxième temps, de la vie communautaire qui est essentiellement une attitude personnelle. En réalité, le « en effet » du verset 4 montre que c'est précisément en rapport avec les autres membres de l'Église que doit s'exercer la modération. De la sorte, l'apôtre aborde la vie chrétienne dans sa réalité de tous les jours, et il le fait non pas dans le contexte d'individus isolés, mais en la référant au corps. Peut-être sommes-nous dubitatifs sur cette relation au corps, même si chaque fois que nous participons à la Sainte Cène, je glisse à cette occasion que demain soir il y a un webinaire de l'association, c'est Paul Évry qui le donnera, sur qui peut participer à la Sainte Cène. Alors si vous voulez un lien, peut-être vous pouvez vous adresser, je ne sais pas, à Olivier ou à moi, il y a un lien pour s'inscrire. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres des uns des autres. En avons-nous envie de cette unité? Trouvons-nous encore cela important aujourd'hui? Ne sommes-nous pas touchés par une forme d'indifférence spirituelle et relationnel? Je pose très sérieusement la question parce qu'il y a de nombreux obstacles à une relation fraternelle partagée et constructive. Certains dans l'Église ne communiquent pas, ne se parlent pas. Dire, que dis-tu là ? Mais c'est exact. Nous ne vivons pas ensemble, puisque nous vivons dans des endroits très différents, et nous nous retrouvons le dimanche pour le culte. Ce n'est pas la seule église qui connaît ce genre de phénomène. Il y a des années, Alfred Kuhn me disait que près de Paris, une église, ils se réunissaient juste le dimanche parce qu'ils étaient trop éloignés les uns des autres. Ça n'est pas une particularité de notre église. Mais est-ce que nous avons envie de... C'est bien que Paul parle des relations, parle de choquer un frère, une sœur. On peut se choquer le dimanche, évidemment, on ne doit pas se voir longtemps. Mais comment pouvons-nous améliorer, grandir, s'édifier dans la relation en ayant une communication fraternelle et humaine, plus chaleureuse et plus ouverte les uns aux autres? Un terme étonnamment fréquent chez l'apôtre est le mot grec « aléus » que nous traduisons par « les uns les autres ». Je me souviens, il y a de nombreuses années, un camp de jeunes que nous avons tenu à Spa, dans la maison de l'Armée du Salut, le thème était « les uns les autres ». Et on avait fait tout le week-end sur ces passages où il est question des uns les autres. On le trouve avec la vie chrétienne dans pas moins de 37 fois dans les Épîtres. Paul emploie pour mettre en avant l'importance qu'il y a pour les membres du corps à avoir un même souci les uns pour les autres. Alors c'est bien de lire le chapitre 8 de 1 Corinthiens et de dire « les viandes sacrifiées aux idoles, c'est dépassé », mais Paul parle de cette relation et de cette prévenance. Et comment avoir de la prévenance ? C'est en ayant des relations, parce que sinon, je ne sais pas comment nous pourrions choquer l'autre. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, dans Romains 12, verset 10. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, Romains 12, verset 16. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, Romains 13, 8. Peut-être que certains sont en train de se demander, mais comment je peux aimer les autres ? Je ne les vois pas ou je les croise seulement le dimanche. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, Romains 13, 19, et que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu, Romains 15, 5 à 7. Frères, vous avez été appelés à la liberté, quelque chose qui nous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. J'aime la liberté. Si nous sommes ici, dans un pays comme celui-ci, on a peut-être de moins en moins de liberté, mais on apprécie la liberté, et la liberté en Christ est encore tout autre chose. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates 5, 26. Pour Paul, le lieu privilégié où cette transformation s'opère n'est pas tant l'individu pris isolément que la communauté avec ses relations normalement multiples, riches et souvent, faut-il le dire, difficiles, voire conflictuelles. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les commandements formulés avec l'expression « les uns les autres » touchent souvent à l'idée du support mutuel. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même, Colossiens 3, 13. C'est en effet dans une réalité communautaire, avec ses encouragements et ses défauts, que nous grandissons dans notre capacité d'accueillir l'autre, dans l'amour et le pardon, et dans la perception concrète de l'accueil que le Christ lui-même nous a fait. J'ai tenu à relever cela ce matin, parce que je suis le premier convaincu que tout cela est sans doute difficile, était sans doute déjà difficile à l'époque de l'apôtre Paul, mais que c'est une approche difficile aujourd'hui. Disserter des principes spirituels est une chose excellente. mais trouver à les concrétiser en est tout autre. Dans notre société actuelle, profondément façonnée par la primauté de l'individu, l'enseignement du Nouveau Testament peut paraître décalé, pour ne pas dire saugrenu. Par rapport à nos cultures occidentales du XXIe siècle, il a en tout cas quelque chose de contre-culturel. L'individualisme radical est un trait constitutif de la modernité, et tout autant, sinon davantage, de son successeur, l'ultra-modernité. D'ailleurs, si en tant qu'évangélique, nous passons si facilement à côté de l'importance de la communauté pour notre édification, il y a tant de moyens ailleurs, n'est-ce pas ? BLF vend tant de livres, c'est merveilleux, mais la librairie Bon Livre aussi, encore faut-il les lire, mais notre édification passe par la communauté. C'est à n'en pas douter parce que, beaucoup plus que nous ne le pensons, nous sommes influencés par la culture ambiante avec son individualisme exacerbé. Laissez-moi tranquille, je vais bien grandir tout seul. Ce constat appelle à mon sens deux remarques. D'une part, il convient de souligner que dans l'esprit du Nouveau Testament, il n'y a pas d'opposition entre individus et collectivités. Ce serait tordre les textes que de vouloir remplacer l'individualisme moderne et ultramoderne par un collectivisme où l'individu perdrait sa valeur et sa responsabilité devant Dieu. En ce qui concerne justement la sanctification, l'Écriture tient ces deux choses en équilibre. Mais les sociologues reconnaissent aujourd'hui de plus en plus le besoin ressenti, en particulier chez les plus jeunes, de relations plus approfondies. L'individualisme fragilise paradoxalement les individus qu'il était censé affranchir et crée des isolements souvent difficilement supportables. Il ne serait pas inintéressant de nous poser la question : un évangile présenté exclusivement en termes d'individus et concevant l'édification avant tout sur ce plan-là, s'il peut sans doute exercer un certain attrait par sa proximité avec l'individualisme moderne, ne risque-t-il pas pour autant de passer à côté aussi bien du message de l'Écriture que ce que recherchent de plus en plus de personnes autour de nous, c'est-à-dire un esprit communautaire, quelque chose qui fait du bien. Le Dieu trinitaire est d'ailleurs un exemple, Père, Fils, Saint-Esprit, et ils agissent différemment, mais aussi ensemble. L'apôtre poursuivra d'ailleurs au chapitre 9 et suivant avec la question de la liberté chrétienne dont il parlait déjà au chapitre 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis au chapitre 10, mais tout n'édifie pas. Ce n'est donc pas un problème unique que cette viande sacrifiée aux idoles. Il touche tous les cas de conscience qui peuvent se présenter aux croyants et qui doivent être examinés sous l'angle de la liberté chrétienne et de ses limitations. Car en effet, l'une des caractéristiques de notre liberté, c'est qu'elle a des limites. Elle a des limites dans la société, mais elle a aussi des limites dans l'Église. On dira, oh ben, j'avais une ancienne collègue qui était extrêmement frileuse, et il ne fallait surtout pas la déranger. Et elle n'aurait jamais mis les pieds dans une église. Mais non, on va regarder ma vie, on va me dire des choses, on va me contrôler d'une certaine manière. Non, jamais, ça n'est pas possible. Mais peut-être qu'aujourd'hui, nous pensons aussi, certains peuvent le penser, il ne faut pas que dans l'église, on vienne me dire quelque chose. On peut parler du haut de la chair, mais peut-être les choses plus personnellement, c'est peut-être plus difficile. La liberté chrétienne et ses limitations. Et puis dans mon comportement, car en effet, c'est en opposition flagrante avec l'esprit du monde dans notre société d'aujourd'hui. Et toutes les situations et circonstances sont loin d'être aussi simples que mon exemple du début de la prédication où j'évoquais ma visite dans la cathédrale. N'est-ce pas ? Quelqu'un aurait pu me juger et dire « Oh, il va se prosterner peut-être devant, il va mettre un cierge devant un saint. » Bon, je peux trouver cela ridicule, mais c'est tout à fait possible que quelqu'un pense cela. Limiter notre propre liberté pour les motifs évoqués par l'apôtre risque d'être souvent difficile, parce que ça touche au comportement. Et le comportement, c'est la vie de tous les jours, mais c'est aussi ce que je dégage de ma vie, comment je conduis ma vie, comment j'investis, comment je dépense mon argent peut-être. Et cela peut choquer, parce que tous n'ont pas la même approche, tous n'ont pas nécessairement, nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Tout cela, ce sont des choses de notre société, des choses qui existaient déjà du temps de l'apôtre Paul, mais qui étendent notre réflexion à ce qu'est le comportement chrétien. Prenons le temps de méditer cela et d'agir en conséquence. Prendre conscience de cela ne peut que nous faire progresser ensemble, même si, on peut rêver, nous n'aurons peut-être pas effectivement tous les mêmes relations, mais nous pouvons progresser ensemble dans l'amour au sein de l'Église, sans rien perdre de tous les bienfaits que Dieu nous accorde en Jésus-Christ par sa grâce. Nous ne pouvons que nous en trouver mieux, tant dans l'Église qu'individuellement. Amen.